faire chanter
sur franceinter.fr.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous ce soir à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Celui qui suit s'appelle Daniel Mermet et qu'on se le dise, c'est là-bas si j'y suis.
Il y en a marre de ce putain de temps de merde.
Oui, salut, c'est Luc. Bon, tes émissions, j'aime bien depuis longtemps, j'aime beaucoup même. Mais ton répondeur plein de pessimisme, ça commence à me chauffer les oreilles. Salut.
Bonjour, c'est un message pour le repère des amis. Cette semaine, on vous accueille au Cotopo, Lyon 1er, au 14 rue René Lénaud, à partir de 20h30. On a... pas de thème particulier, suffisamment d'actualité à traiter. Venez avec vos idées, la parole vous est donnée. À vendredi 7 février, 20h30. Au revoir.
Salut tout le monde. Non, je regardais un peu qui c'est qui trompe, qui aime tromper, quoi. Montebourg, il est bien comme mec. Il a laissé Amazon s'installer dans son département avec sa bénédiction. Et là, maintenant, il aimerait bien nous fourguer les gages de schiste. Ah, il est bien, lui. Ça, c'est au niveau de la trompe, c'est carrément un éléphant, celui-là. On peut le dire, hein. Salut.
Bonjour, très bonne émission. Je voulais dire que depuis que ça existe, je n'utilise pas Google pour mes moteurs de recherche. J'utilise XQuick. XQUICK. C'est un métamoteur de recherche qui a le grand avantage de ne pas enregistrer votre IP, c'est-à-dire votre ordinateur, l'empreinte digitale de votre présence sur numérique. Et en plus, c'est par pertinence, et pas par ordre de fréquentation que sont données les réponses. Enfin, c'est une chose, XQuick, I-X-Q-U-I-C-K. Et puis, autre chose, quand vous répondez à un questionnaire, faites comme moi. Marquez un nombre d'enfants inconsidérable, dites que vous êtes né en 1911, etc., etc., quoi. Un petit conseil pour essayer de grignoter un petit peu la machine.
C'est fou jusqu'où ça va le big data. Par exemple, là je suis en train de téléphoner, et si ça se trouve, eh ben, ça va être diffusé sur France Inter, au vu et au su de tous. C'est incroyable.
Ouais, vous êtes bon. Bon, d'accord, vous êtes vachement bon aujourd'hui. Vous êtes vachement bon. Bon, XQuick, il a dit, l'ami... L'AMG, là. Vous avez noté ? C'est peut-être un bon tuyau, hein ? D'après les spécialistes de là-bas, si j'y suis, c'est un bon tuyau. Un autre bon tuyau, bah, c'est l'heure qu'on va passer ensemble, jusqu'à 16h ou presque, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Vous savez que chaque mois, depuis des années et des années, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique. Là, on va retrouver Serge Halimi, qui va évoquer... les censeurs et les scélérats. On va retrouver Gérard Prunier, un spécialiste, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, tant pis, c'est parti, de la corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est. Et notamment, là, on va parler du Soudan du Sud, ce nouveau pays qui est en proie à une guerre terrible. On va retrouver Pierre Souchon, qui lui s'est promené en Roumanie, dans la campagne roumaine, où il a rencontré les évangélistes de l'Union européenne qui sont en train de convaincre les paysans roumains de se moderniser et puis de laisser tomber tout ça et de faire un petit peu comme on a fait en Bretagne, par exemple. Et justement, ensuite, on ira en Bretagne avec Jean-Arnaud de Reims qui décrit le malaise français devant la colère des Bretons, et ça vous donnera sur cette histoire bretonne un autre regard que celui de là-bas si j'y suis dans les émissions et les reportages qu'on vous a présentés ces temps derniers. Voilà les sujets du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est pour signaler qu'il n'y a pas que Télérama qui oublie de programmer Daniel Mermet. Le programme de télévision du journal Le Monde ignore complètement cette émission aussi. Merci pour les émissions. Au revoir.
Oyez, oyez, chers AMG, prochain Café Repère de Perpignan ce jeudi 6 février à 18h30 au Café du Centre à l'angle de l'avenue du lycée Arago. Et venez donc nombreux. Au revoir.
Une suggestion au prochain patron de Radio France, la création d'une nouvelle antenne que l'on pourrait intituler France Info B. B comme bis ou B comme Balkany. une antenne qui ne parlerait que des casseroles de Balkany. Ça suffirait largement à faire une radio entière et ça soulagerait un petit peu France Info qui pourrait parler d'autre chose. Parce que les pauvres, ils n'en peuvent plus.
Ouais, salut à tous. C'est un message qui s'adresse à ceux qui habitent le canton de Fayence. À l'occasion de la sortie du numéro anniversaire du nouveau journal du pays de Fayence, pour ses 5 ans, on organise un petit apéro chez Kiki à Fayence, au bar Le Lobe, samedi 8 à 11h. Alors venez donner vos premières impressions, venez rencontrer l'équipe du journal, les adhérents et les gens qui font le journal. La bise à tous, ciao, viva.
Salut les AMG, ici le repère ternésien de Monchy-Breton. Eh bien, c'est pour vous signaler notre repère ce jeudi 6 février à partir de 18h30. Ben voilà, on va se souhaiter la nouvelle année, la galette en retard, mais au final, on y perd son latin, pourvu qu'on ne perde pas son genre. À bientôt.
Heidi, les écouteurs de là-bas, venez assister au Café Repère de Nancy ce vendredi 7 février à 7h du soir. Le thème du débat sera les élections municipales. Nous essaierons de rassembler nos souhaits, désirs, projets pour la ville de Nancy, puis les proposer dans les débats publics et au siège de campagne des candidats à cette élection. Haïdo !
Bonjour, Daniel Mermet. Une petite lecture ce matin. L'auteur Georges Bernanos, La France contre les robots, 1947. L'idée qu'un citoyen qui n'a jamais eu affaire à la justice de son pays, devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui lui plaît, pour des motifs dont il est seul juge, ou simplement pour son plaisir, que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves. Cette idée ne vient plus à l'esprit de personne. Georges Bernanos, salut.
Bonjour, ici le Café Repère de Vierzon. Ce dimanche 9 février, nous diffuserons le film Ne vivons plus comme des esclaves avec la présence du réalisateur Yanis Yuluntas qui viendra débattre de l'effondrement économique de la Grèce et des alternatives de sortie du capitalisme qui se mettent en place. Donc ça se passera ce dimanche 9 février à 18h à l'auberge de jeunesse de Vierzon. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, on est avec le Monde Diplomatique de ce mois de février. Et je relève tout de suite une phrase. Les sirènes de Wall Street l'ont emporté sur l'amour du graillon. Et ça, c'est un extrait d'un papier de Thomas Frank dans le Diplo donc de ce mois de février. Révolte américaine contre les ogres du fast-food. Rien que ce papier-là mérite que vous plongiez dans ce numéro du Diplo. Mais on va commencer avec Serge Halimi, qui s'en prend à ce pauvre ministre de l'Intérieur, Monsieur Valls, qui a bien des difficultés à lutter contre les scélérats. Voilà, contre les scélérats actuels. Ça a intéressé et inspiré Serge Halimi.
Bon, vous dites ministre de l'Intérieur, c'est son titre officiel, mais par les temps qui courent, on se demande s'il n'est pas aussi Premier ministre ou Président de la République bis, parce qu'il intervient un peu sur tous les sujets. En tout cas, le mois dernier, lors du débat autour des spectacles de Dieudonné, il est intervenu en dénonçant quelqu'un qui, selon lui, n'était plus un comique et dont, je cite, la démarche ne relevait plus de la création. Et moi, je pense qu'on peut estimer qu'il n'y a ni création ni humour dans les spectacles de Dieudonné, mais qu'il est toujours inquiétant dans un État démocratique que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministre de la Police, s'érige en quelque sorte en juge ex-qualité de l'humour et de la création, qui a un certain nombre de principes à défendre lorsqu'il s'agit de la liberté de réunion, de la liberté de l'association, de la liberté de tenir des spectacles, un peu foulé aux pieds dans cette affaire. Je ne sais pas si c'était au moment de l'affaire Dreyfus ou en tout cas à cette période, Clémenceau, qui a joué un rôle important au moment de l'affaire Dreyfus et qui a par la suite été autre chose qu'un défenseur vigilant des libertés, mais a eu une formulation qui me paraissait assez intéressante, assez frappante, et il disait « Il faut laisser tout attaquer à condition qu'on puisse tout défendre, je dirais même laisser tout attaquer afin qu'on puisse tout défendre, car on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement. » Et je crois que dans ce genre de sujet, il faut conserver la tête froide et partir de deux idées. La première idée, la plus simple, c'est que la question de la liberté d'expression n'est jamais posée quand il s'agit d'autoriser des propos qu'on approuve. Si on est favorable à la liberté d'expression, c'est par définition pour les propos qu'on réprouve, et je dirais même pour ceux qu'on réprouve le plus. Donc si on n'est pas favorable à la liberté d'expression pour les propos qu'on réprouve le plus, c'est qu'on n'est pas favorable à la liberté d'expression. Et l'autre, c'est que lorsqu'un principe comme la liberté d'expression ou d'association est mis en cause dans un contexte précis, un danger très grave, un conflit, une provocation scandaleuse, il faut savoir que ce principe peut continuer à être mis en cause beaucoup plus tard, une fois que le danger est passé. Mmh. Et que les lois attentatoires à la liberté d'expression, de réunion, ont en général la vie dure.
Ça, c'est la stratégie du choc. Hein. Naomi Klein a très bien décrit ça.
Absolument. Mais c'est aussi vrai lorsqu'il s'agit de principes aussi fondamentaux que le droit de s'exprimer et de se réunir. Et il faut savoir qu'un État, ou à plus forte raison un ministre de l'Intérieur, a toujours tendance à trouver un danger ou à prétexter un danger pour rassembler autour de lui, c'est-à-dire pour rassembler autour de l'ordre et de la sécurité, une population qui a peur, ou une population à qui on fait peur. Et c'est pour ça que ces principes, ces atteintes aux libertés d'expression, qu'il s'agisse de l'absence de censure préalable, du droit d'association, de l'habeas corpus, c'est-à-dire de la liberté fondamentale de ne pas être emprisonné sans jugement, toutes les atteintes de ce type survivent en général très longtemps aux motifs qui les ont justifiés. Et j'évoque dans l'édito du Diplo, évidemment, le précédent du 11 septembre 2001,
Patriot Act. Et,
voilà, puisque quelques semaines plus tard, comme vous le dites, il y a le Patriot Act, cette série de mesures qui attentent à un grand nombre de libertés fondamentales américaines, qui sont adoptées à la quasi-unanimité par les élus américains. Au Sénat, où il y a quand même 100 sénateurs, il n'y en a qu'un seul qui vote contre, parce qu'il est évidemment très courageux dans une situation pareille de se dresser contre la foule, contre la houle. Et donc, ces dispositions-là sont adoptées dans un climat de peur, dans un climat de panique, qu'on comprend bien. Mais 13 ans plus tard, 2014, le président n'est plus le même, la situation n'est plus la même, et ces mesures d'exception restent en vigueur. Et il y a toujours des détenus qui sont détenus sans jugement depuis des années à Guantanamo.
La différence, quand même, c'est que les censeurs, parce qu'il s'agit de ça, du type Valls, font du censuré un héros à tous les coups. Maintenant, celui qui a été censuré, c'est Dieudonné, bénéficie de l'aura du martyr et du persécuté.
Absolument, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, l'expression, enfin, ce que vous venez d'employer comme expression, c'est précisément ce que disait la Ligue des droits de l'homme quand elle s'est opposée à ces mesures d'interdiction des spectacles il y a quelques années, puisque en 2010, il disait « interdire de manière préalable un spectacle est effectivement une atteinte à la liberté d'expression et de création que la Ligue des droits de l'homme ne saurait cautionner ». Au surplus, ajoutait-il, c'est offrir à l'intéressé la possibilité de se présenter comme un artiste persécuté. Fin de citation. Et on sait bien que quand il s'agit de quelqu'un comme Dieudonné, qui a une vision un peu paranoïaque de la réalité, avec des complots, en l'occurrence un complot juif, et dans toutes les périodes économiques un peu troubles, ces tentations paranoïaques ressurgissent, le fait qu'on lui interdise de tenir ses spectacles lui permet de prétendre que précisément il y a un complot juif qui tient l'ensemble des mécanismes de l'État, la justice, la police, l'administration, le ministère de l'Intérieur. D'une certaine manière, l'interdiction va dans le sens de la construction du personnage qui est le sien.
C'est-à-dire qu'il va bientôt pouvoir se comparer à Flaubert, à Baudelaire, à Dreyfus.
À Flaubert et à Baudelaire peut-être, à Dreyfus j'en doute davantage, mais il me semble que ce qui est important, c'est que précisément dans ces périodes-là, nous gardions la tête froide, et que c'est au moment où un propos nous indigne qu'il faut savoir défendre malgré tout les libertés fondamentales qui n'existent que dans des cas de ce genre.
Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon, 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 bon. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts. Je ne chanterai plus que les petits oiseaux, l'amour, le ciel, la terre et l'eau. Dans la fanfare, opposition, je soufflerai plus d'hélico. Je ferai plus mal à personne, j'aurai la plume aseptisée. J'aurai plus la voix qui détonne dans les grands shows télévisés. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon, 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 bon. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts.
Alors, Pierre Souchon a fait un petit tour en Roumanie. Et il est allé dans les régions où la Roumanie ressemble à la France paysanne des années 50. Il y a encore en Roumanie 3,5 millions de Roumains qui vivent d'une agriculture de subsistance, mais hélas insuffisamment compétitive. Voilà pourquoi l'Union européenne vient soutenir cette paysannerie, cette agriculture, de façon à la dynamiser et à la rendre plus compétitive. Voilà ce qui a intéressé notre jeune confrère, lui aussi très dynamique.
Effectivement, quand on se promène dans les Carpates, ce grand massif montagneux roumain, à la saison des moissons, on peut voir des paysans qui fauchent dans des prés en pente terrible, qui fauchent à la main, et derrière eux, des cigognes picorent les sauterelles qui ont été découvertes par la faux.
Il y a vraiment des cigognes qui viennent manger les sauterelles ?
Oui, oui. Il y a des cigognes qui viennent manger les sauterelles, on les voit, elles sont alignées derrière le roumain avec sa faux. Ce sont des images très belles, dans le sens où ça incarne vraiment un rapport millénaire de l'homme à son environnement. Et donc ce modèle dominant d'agriculture vivrière persiste en Roumanie, puisque l'agriculture, en tout cas la contraction du secteur industriel, l'effondrement du secteur industriel après la chute du communisme en 89, a conduit à une sorte de retour à la terre, si bien qu'aujourd'hui encore, on a 30% de la population active roumaine qui vit encore de l'agriculture sur des propriétés qui n'excèdent pas en moyenne 2 hectares, quand en France, quelques 3% de la population active actuellement travaille des exploitations d'une taille moyenne de 55 hectares. Donc comme vous le disiez, ce n'est pas du tout du goût de l'Union européenne, des paysans avec des faux et des cigognes. Et comme me le demandait un fonctionnaire roumain du ministère de l'Agriculture, il me posait cette question lorsqu'il voyait un berger au bord de la route surveiller son unique vache. Il me demandait, mais comment vous voulez qu'on soit compétitif en produisant comme ça 5 litres de lait par personne ? Eh bien l'Union européenne a trouvé la réponse, elle envoie dans les campagnes roumaines des agents d'européanisation. Donc ce sont des jeunes gens qui ont un uniforme bleu aux couleurs de Bruxelles et qui diffusent, à bord d'une caravane qui parcourt le pays, qui diffusent des PowerPoint.
Des PowerPoint, qu'est-ce que ça veut dire, PowerPoint ?
Alors, les PowerPoint, ce sont des projections vidéo sous un auvent. Et donc sur ces projections vidéo, à destination des populations rurales des endroits les plus reculés de Roumanie, défilent, je cite, les objectifs opérationnels économico-financiers pour pouvoir bâtir une étable de 30 vaches avec au centime près le nombre d'aides publiques remboursables et non remboursables. Voilà, donc les bénéficiaires de ce type de programme, on s'en doute, ne sont absolument pas les petits paysans, mais bien les gens qui sont à même de répondre à ce type de projet économique, et ce sont des gens comme Adi Khoury. Alors j'ai rencontré ce jeune PDG, c'est un Libanais, il a une trentaine d'années, il est venu investir en Roumanie, il a acheté pour une misère les anciens bâtiments d'une ferme agricole d'État. Dans cette ferme, il produit, associé avec quelques collègues industriels comme lui, un quart des œufs consommés en Roumanie. Donc son exploitation est ultra moderne, alors il se félicite que l'Union européenne lui ait donné 1 million d'euros sans aucune contrepartie pour moderniser sa ferme, et je le cite, ce qui est vachement bien en Roumanie, c'est que mes 25 employés, je les paye une misère. Voilà.
Ouais.
Voilà quelle agriculture, du coup, est soutenue par l'Union européenne, et bien sûr, on voit de quelle manière elle veut accélérer la fin et la mort de la petite paysannerie.
Avec ses 15 millions d'hectares de terres cultivables, la Roumanie attire désormais des agriculteurs de toute l'Europe, avides de nouveaux horizons. Arte, ici, le prix à l'hectare défie toute concurrence. à 2000 euros en moyenne, c'est deux fois moins cher qu'en France et quatre fois moins qu'en Allemagne.
8 novembre 2013.
L'autre secret de l'Eldorado roumain, c'est l'afflux de subventions européennes. Depuis l'intégration de la Roumanie à l'Union en 2007, le pays est devenu le 8e bénéficiaire de la politique agricole commune, avec plus de 2 milliards versés chaque année aux agriculteurs. Régulièrement se tiennent à Bucarest des conférences où le gouvernement roumain tente de séduire les investisseurs étrangers. Le ministre de l'Agriculture, par exemple, ne jure plus que par les grandes exploitations, de préférence étrangères.
Il faut qu'on oriente les petites fermes pour qu'elles soient productives et qu'elles soient compétitives sur le marché. Il faut que toutes les exploitations d'un, deux, trois, cinq hectares puissent grandir, atteindre minimum 50 hectares, voire plus. Notre pays ne peut pas développer sa production agricole parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. La meilleure solution serait que les industriels s'associent avec les agriculteurs.
Dans la salle, des agriculteurs, bien sûr, mais aussi des géants de l'industrie agroalimentaire, comme Danone, Heineken ou encore Carrefour.
Mais le grand malheur, je pense, pour les commissaires européens, c'est que cette petite paysannerie résiste. J'ai rencontré, par exemple, la famille Vingarzan en Transylvanie, qui est une région très rurale encore du centre de la Roumanie. Eh bien, les Vingarzan font de l'agriculture d'autosubsistance sur une cinquantaine d'hectares. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des engrais. Eux, ils voudraient bien. Mais enfin, étant donné qu'ils n'ont pas d'argent, tout est en bio. Et donc, ils ne vendent rien. Et les céréales qu'ils cultivent sont uniquement à la destination de leurs bovins. Et donc, bien loin de la caravane publicitaire des agents d'européanisation, quand on leur demande, mais comment ça se fait que vous en soyez là, etc. Eux, le responsable, ils le trouvent et ils le désignent, c'est l'Union européenne, disent-ils, tout simplement parce qu'ils expliquent que les produits européens de l'Ouest, les produits agricoles, que ce soit les pommes de terre, les carottes, les choux-fleurs, etc., parce qu'ils sont plus compétitifs, beaucoup plus subventionnés, eh bien, inondent les étalages des supermarchés et des épiceries roumaines, tandis que les produits de cette agriculture vivrière ne peuvent pas être vendu en Roumanie. Alors, c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur ces pays, notamment à travers cette politique agriculturelle impulsée par Bruxelles, mais impulsée également par les plans d'aide du FMI. Vous savez que le FMI, bien souvent, vient en aide aux populations. Et donc là, il est venu en aide en Roumanie en supprimant des centaines de milliers d'emplois publics. En 2011, il y a eu une amputation d'un quart des salaires des fonctionnaires. Il y a eu le relèvement du taux de la TVA de 5 points. Donc, c'est un marché du travail qui est aujourd'hui complètement atomisé, qui propose des contrats le plus souvent précaires. Donc, soit la population, à l'image des Vingarzan, résiste, soit elle part. On trouve aujourd'hui 12% des Roumains, ce qui est un pourcentage tout à fait colossal, qui travaillent à l'étranger et qui rejoignent, pour la plupart, des métiers faiblement qualifiés et saisonniers. Et par ailleurs, cette politique austéritaire qui vient des institutions internationales et européennes a des effets contre-intuitifs complètement incroyables. Et ça, je l'ai constaté en rentrant dans le jardin de la famille.
Des effets contre-intuitifs?
Oui, les effets contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'on voudrait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voudrait accélérer la mort de la petite paysannerie. Mais voyez, M. Mermet, quand vous rentrez dans le jardin des Fitz à Alba Iulia, eh bien, vous arrivez dans une famille où Cesare Fitz est professeur d'histoire de la musique au lycée d'Alba Iulia. Son mari est membre de l'Union nationale des compositeurs roumains. Il est retraité de l'enseignement également. Eh bien, quand vous arrivez dans leur jardin, ils sont en train de tuer une trentaine de poules qu'ils élevaient depuis un an. Et ils expliquent tout simplement que toutes ces politiques les amènent à avoir de tels salaires qu'ils ne peuvent plus se payer de quoi manger correctement, de bons produits, etc. Et donc, en pleine ville, ils élèvent dorénavant des poules.
Mais pourquoi ils les tuent, là?
Ils les tuent parce que c'était le moment de les tuer quand je...
Ah, j'ai eu peur, j'ai un génocide de poulets.
Non, c'était effectivement... ils ont choisi le moment de ma venue pour l'abattage. Voilà. Ils appartiennent pourtant à la petite bourgeoisie intellectuelle et lorsqu'on voit ces intellectuels aux travaux des champs, on se rend compte que même dans ses rêves les plus fous, Ceausescu ne l'aurait sans doute pas imaginé. Voilà, alors, pour conclure, ce qui apparaît aujourd'hui en Roumanie, dans la Roumanie contemporaine, c'est qu'on mène exactement les mêmes politiques en termes d'agriculture que celles qui ont été menées dans l'Europe de l'Ouest, en France notamment, dans les années 50-60. Or, aujourd'hui, on peut faire chez nous le bilan de ces politiques. C'est-à-dire qu'il est sous nos yeux tous les jours. C'est à portée d'un clic sur Google. Il suffit de se tourner vers la Bretagne.
On va se tourner vers la Bretagne dans un instant.
Voilà, il suffit effectivement de se tourner vers l'ouest du pays, ou vers la Beauce, ou même vers l'Ardèche, pour se rendre compte que ces politiques ont été un fiasco environnemental, et surtout également un désastre social. Eh bien, pourtant, ces politiques continuent aujourd'hui avec, sans doute, à terme, les mêmes conséquences dévastatrices. Et donc, l'Union européenne, c'est même pire que ça, sait reconnaître les meilleurs élateurs de ces politiques destructrices, puisqu'elle a nommé en 2009 un ancien ministre de l'Agriculture roumain. Il s'agit de Dacian Cioloș. Et donc, M. Cioloș, depuis 2009, est commissaire européen à l'agriculture, et c'est lui qui vient de renégocier la réforme de la PAC. Alors, plutôt que de souligner, comme le fait souvent la presse française, comme le fait la gauche française, sa francophilie, le fait qu'il est marié avec une Française, de souligner également son soutien à une agriculture écologique, au verdissement de la PAC, etc. Je pense qu'on ferait mieux de faire son bilan politique qui est, comme vous le voyez, extrêmement éloquent.
L'Europe, c'est la fête. Chômage enrayé, on détruira sans cesse nos plus belles forêts. Ce n'est pas mon affaire, non, non.
Ce n'est pas son affaire.
L'Europe, c'est pépère, justice, égalité. Du vol à Amsterdam, on te juge à Poitiers. Le travail allégé, plus de vin, plus de blé, plus de vaches engraissées, plus de foin, plus de lait, plus de blé, plus de pain, je n'ai vraiment pas faim. À l'Europe, c'est coton, tout sera donné, la laine, le coton, tout seront sans arrêt, dans de jolis paquets, super enrubanés, ça fait quand même bouchon, vite encore constipé. Ce n'est pas la galère, l'Europe, c'est parfait, on n'aura rien à faire, même pas pour bouffer. De travers, je suis constipé.
Des morts restés là où ils sont tombés, AFP, et qui témoignent de la succession d'attaques violentes qui ont eu lieu ici à bord, au Soudan du Sud.
18 décembre 2013.
La ville a changé quatre fois de main depuis le début de la guerre mi-décembre. Des combats entre l'armée régulière et les rebelles opposés au président Salva Kiir. Cette guerre a déjà fait des milliers de morts et coupé dans son élan la plus jeune nation d'Afrique qui a obtenu son indépendance en 2011 après deux décennies de guerre.
On continue avec le Monde Diplo de ce mois de février avec Gérard Prunier qui est un observateur aguerri du Soudan et généralement de l'Afrique de l'Est, de la corne de l'Afrique. Alors qu'est-ce que vous observez sur ce Soudan ? On a des descriptions catastrophiques, apocalyptiques de ce qui se passe dans ce pays tout neuf.
Oui, il n'est pas tout neuf. Par contre, l'apocalypse, elle est parfaitement justifiée. C'est pas une exagération. J'oserais même pas citer les chiffres de victimes probables. Parce que, étant donné que ce sont des calculs qui ont été faits sur des bases non vérifiées, c'est trop dangereux de parler de ce genre de choses. Mais quand on dit 10 000 morts, à l'heure actuelle, c'est très, très inférieur à la réalité. Et non, c'est pas un nouveau pays. C'est un pays qui existe depuis très longtemps, mais qui était un morceau d'un autre. Puisque c'est un cas de colonisation intérieure, le pays est partagé en fait en trois. On a toujours dit entre les chrétiens noirs et puis les arabes musulmans, et on oublie d'ailleurs qu'il y a un troisième tiers qui joue à l'heure actuelle un rôle fondamental dans toute cette crise, sont les noirs musulmans, les gens qui sont ni des arabes ni des noirs chrétiens, et qui représentent un tiers de la population, notamment au Darfour. Darfour qu'on a tendance un petit peu à oublier après avoir fait énormément de bruit autour de ça. Et puis, il y a une espèce de mode, d'ailleurs, dans les crises, les affrosités internationales. Il y a les trucs très graves, c'est-à-dire, c'est très grave parce que nous en parlons. Et puis, c'est pas très grave parce qu'on n'en parle plus. Mais on n'en parle plus parce que, bon, le temps qui est imparti à l'Afrique est souvent un petit peu mesuré, disons. Mais là, le Sud-Soudan, il est neuf sur le plan diplomatique. Si on pense qu'il y a des gens qui sont assis à New York et qui ont une petite étiquette Sud-Soudan sur leur pupitre. Mais avant 2011, il existait bien. Et il existait justement dans une situation particulièrement catastrophique. Parce que c'est une guerre qui a fait 1,5 million de morts hein, sur 19 années. Et tout le monde croyait que parce qu'il y aurait la sécession en 2011... Ah ben le truc était solutionné, il n'y avait plus de problème. Et c'était vraiment faire très très bon marché de la réalité des choses, parce que le groupe, j'appelle ça un groupe, qui incarne aujourd'hui l'État au Sud-Soudan, il est fait pour être un gouvernement, comme moi je suis fait pour être un cardinal de la curie romaine. C'est un groupe de guérilla marxiste-léniniste, pas débarbouillé du tout, modèle guerre froide, lourd, qui, sans du tout se transformer au niveau organisationnel de la structure interne, a dit un beau jour, voilà, je suis l'État. Et il est évident que l'histoire a continué, la conscience des gens a continué à évoluer, les choses ont continué à changer, et puis ces braves gens sont aujourd'hui totalement en décalage par rapport à la réalité. Et il y a quelques temps, il y a eu un mouvement intérieur à leur organisation, parce qu'évidemment, il n'y a aucune espèce de démocratie générale, c'est une espèce de truc à l'intérieur du parti État, de gens qui ont dit « c'est plus possible, il va falloir un petit peu mettre les pendules à l'heure ». Par exemple, on peut pas avoir des élections dont le vainqueur est déjà choisi à l'avance par une assemblée interne du parti, c'était littéralement ça. Et évidemment, le monsieur qui est à la tête du pays, il n'a pas trouvé ça rigolo du tout. Il a conclu que si c'était à l'ancienne méthode, c'est-à-dire que la nomination présidentielle était entre les mains du parti et le parti est entre mes mains, donc je suis le président nommé, donc je vais être le président qui va gagner, c'était quand même mieux. Alors, il y en a plein qui ont dit, non, on pense que c'est pas mieux, faut pas continuer comme ça. Il y avait évidemment aucun mécanisme institutionnel pour dire on arrête ce genre de couillonnade. Donc ils ont décidé de faire une grande manifestation. Chose inimaginable, on n'en avait jamais vu une seule. Une manifestation. Dans un pays tout neuf, régi par une, faut bien le reconnaître, une dictature militaire, avec un parti-État unique, machin, etc. Des médias, le moins qu'on puisse dire. Le dernier journaliste que je connaissais bien a été assassiné il y a environ 14 mois et on n'a jamais eu d'enquête sérieuse sur sa triste mort. Donc, quand on a dit une manifestation, ouf, c'était vraiment parler de contraception au Vatican. Hein. C'est un choc total. Donc, on a dit, écoutez, on va négocier ça. Pourquoi une manifestation? Ne nous énervons pas. Il y a même l'archevêque catholique qui a dit, on voit pas l'archevêque défenseur des principes marxistes-léninistes, mais il voulait surtout pas que tout le monde commence à se battre. Il a dit, on pourrait peut-être négocier avant de faire une manifestation. Alors, la manifestation devait avoir lieu le 14 décembre. Ils ont négocié le 13 et le 14, on est arrivé à rien, et le 15, le président a fait un coup d'État et a foutu toute l'opposition en prison.
Le président du Soudan du Sud impose un couvre-feu dans la capitale après avoir déjoué un coup d'État. C'est en tout cas ce qu'affirme Salva Kiir après d'intenses combats cette nuit.
Euronews, 16 décembre 2013.
Pour la sécurité de nos citoyens, je déclare qu'un couvre-feu est imposé à Djouba, dit-il. Je vous promets aujourd'hui que la justice prévaudra. Le chef de l'État issu de l'ethnie Dinka met en cause les soldats fidèles à l'ancien vice-président, son rival de la communauté nuère, limogé en juillet. Outre les rivalités politiques des deux hommes, le conflit risque donc de dégénérer en affrontements ethniques.
Pourquoi ces massacres et pourquoi ces morts?
Ah! Parce que nous sommes en Afrique. et qu'un citoyen n'est pas un monsieur lambda qui est né à tel endroit et avec une citoyenneté interchangeable. Il est membre d'une tribu. Donc la tribu du président et la tribu du monsieur qui est le chef de l'opposition ont commencé à s'entretuer. C'est pas ça qui a causé la crise. Mais à partir du moment où la crise s'est mise en marche, il y a le problème que ces gens-là ne sont pas, si vous voulez, des identités neutres. Ils ont une identité ethnique, tribale. D'ailleurs, là, honnêtement, je n'ai aucune sympathie pour l'actuel président, dont je souhaiterais la déchéance. Mais honnêtement, c'est pas lui qui a donné l'ordre qu'on massacre tout le monde. De même que son vice-président, chef de l'opposition, qui est maintenant en brousse avec un fusil pour essayer d'empêcher que ça continue comme ça, c'est pas lui non plus qui a donné l'ordre à ses partisans de massacrer les gens de l'ethnie du président. Malheureusement, ce sont des initiatives qui sont venues des gens dans les deux tribus qui n'ont pas demandé l'ordre à leur chef. Et c'est épouvantable, parce qu'à ce moment-là, on tue pas que les hommes, hein, on tue les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. C'est vraiment l'identité ethnique. Et honnêtement, ni dans un cas, ni dans l'autre, ils ne sont vraiment responsables de ce qui se passe. C'est-à-dire, s'ils veulent le freiner, ils peuvent essayer. Il faut dire qu'ils n'ont pas trop freiné, ni dans un cas, ni dans l'autre. Hein. Parce qu'il y a la question, si je veux que ma tribu me soutienne, je ne peux pas les condamner comme une bande de barbares qui ne devraient pas faire ça. C'est très délicat. Chacun veut le soutien de sa tribu, même s'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on commence à massacrer femmes et enfants de l'autre côté. Et il faut dire que ces deux tribus-là, elles deux, elles forment 70% de la population. Alors moi, j'ai pas mal de copains qui sont des gens des petites tribus. Il y en a une douzaine, au moins une quinzaine, qui forment, eux, le tiers de la population. Et qui disent, non mais attendez, mais ce truc, ça nous concerne pas. Nous, on ne veut être ni victimes, ni assassins. Et puis, la libéralisation de la vie politique, là, oui, on était assez d'accord, parce que on en a un petit peu marre de ces Dinka et de ces Nuer, qui, sous prétexte qu'ils sont les deux plus gros, monopolisent tout. Nous aussi, on existe. Alors, d'ailleurs, le gouvernement dit, puisque vous êtes en faveur de l'ouverture de la vie politique, vous êtes les complices des rebelles. Donc, on va accessoirement vous flinguer avec les autres.
Que fait la communauté internationale, comme on dit, dans ce conflit? Que fait Khartoum? Et quelles sont les ressources de ce pays?
Pour la communauté internationale, c'est pas difficile, rien. Ils font rien. Les Américains regardent en étant très préoccupés. L'Union européenne est spectatrice, mais zéro, rien. Les Chinois, qui sont au cœur du truc, parce que c'est un pays pétrolier, que les compagnies pétrolières sont chinoises, regarde tout ça avec énormément d'inquiétude et ne font rien non plus. Donc la communauté internationale est aux abonnés absents, hein, ça y est, pas d'autre terme. Et les ressources, évidemment, tout tourne autour de ce foutu pétrole, et qui est vraiment, on parle souvent de la malédiction pétrolière, alors là vraiment, je crois que là c'est bien dit. Ça représente pour le Sud-Soudan 98% de ses ressources fiscales. C'est uniquement l'argent du pétrole. Le reste, bon, les 2%, c'est un petit peu de commerce frontalier avec quelques vaches exportées ici ou là. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est un pays pauvre. C'est un pays qui est une fois de la taille, une fois et demie la taille de la France, avec des tas de terres agricoles utilisables, suffisamment d'eau, un cadastre minier qui a jamais été exploré, parce que c'est un pays qui a été totalement négligé par les Anglais. Les Anglais n'y ont rien fait. Il y a trois ou quatre endroits comme ça en Afrique. Par exemple, la République centrafricaine, pour les Français, c'est des endroits où on n'a rien fait. Par exemple, le cadastre minier, c'est très probable qu'il y ait des ressources minières totalement inexplorées. Il n'y a pas eu de cadastre minier qui a été fait. Jamais. Sur 750 000 km². Et le pétrole, c'est quand même très récent. Il date d'il y a une quinzaine d'années. Et il y a une évidence surévaluation économique du pétrole. C'est abominable. 98% des ressources. C'est un pays où il n'y a pas de salariat. Personne ne travaille avec des salaires. On est encore dans une économie d'autoproduction, autoconsommation. C'est l'Afrique d'il y a 200 ans. Alors c'est l'Afrique d'il y a 200 ans plus le pétrole. Et rien entre les deux. Il n'y a pas de solution de continuité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la modernisation de la vie politique à laquelle appelait l'opposition avant d'être mise au trou, n'était pas évidente et n'était pas d'une extrême facilité.
Continue avec le diplôme de ce mois de février avec Jean Arnaud de Reims qui signe avec Laurent Gélin un papier sur quoi donc ? Sur la Bretagne et sur tout ce qui nous intéresse, les bonnets rouges. Et il y a une partie de ce papier qui va faire un écho pour les auditeurs fidèles de là-bas si j'y suis. C'est un reportage, une partie du papier consacrée à Locarne, où nous fûmes il y a quelques jours, l'Institut de Locarne. Et il se trouve que nos confrères, Jean-Arnaud de Reims et Laurent Gélin, n'ont pas tout à fait le même point de vue que celui qui a été exprimé dans nos émissions, et ça tombe très bien, comme ça les auditeurs vont avoir des éléments contradictoires d'appréciation.
Ah, écoutez, en quoi sommes-nous en contradiction avec vos émissions ? Je ne sais pas sur quel point vous voyez
allez-y,
différence. Non, moi, ce que je peux développer, c'est ce qu'on a essayé de faire durant ce reportage.
Oui.
Après, je ne sais pas s'il y a des divergences, on verra bien ensuite. En tout cas, non, ce reportage, pour Laurent et pour moi, qui n'avons pas, pour le coup, l'habitude de travailler en Bretagne, même si nous sommes tous les deux liés à cette région, l'objectif de ce reportage, c'était de comprendre ce qui est en train de se passer, ces dynamiques sociales, ces dynamiques de crise, ces dynamiques de recomposition économique, mais aussi politique, qui se jouent de manière accélérée dans une région qui est une région, je dirais, doublement particulière, ou triplement particulière. Triplement particulière parce que c'est une région qui, en France, pouvait faire figure de région relativement épargnée par la crise. La Bretagne est toujours la région de France où le taux de chômage est le plus faible. C'est une réalité depuis des années et ça fait partie de ses spécificités bretonnes. Seconde grande spécificité de la Bretagne, c'est la région la plus à gauche de France. C'est la région qui, depuis plusieurs élections, enfin régulièrement, de scrutin en scrutin, vote le plus pour, disons, ce qu'on va appeler la gauche de gouvernement. Donc on est là dans un véritable bastion électoral de François Hollande, dont la carrière, pour le coup, d'ailleurs, s'est beaucoup jouée dans des rendez-vous importants en Bretagne et qui, on le sait, a beaucoup de Bretons autour de lui. Pas seulement au gouvernement, mais également parmi ses conseillers. Et puis, troisième particularité de la Bretagne, c'est effectivement une région qui a des traditions particulières de solidarité, de mobilisation, qui réagit sûrement très vite et de manière très collective quand des problèmes se posent. Donc, tout cela, ça fait beaucoup d'éléments et on a essayé d'aller voir un petit peu ce qui se passait plus précisément, plus concrètement sur le terrain. Donc, sur le terrain, tout d'abord, je dirais avant tout, par exemple, à Lampol-Guimiliau, là où il y avait les abattoirs GAD qui ont été fermés parce que selon l'avis général, il y avait un abattoir de trop en Bretagne, c'est donc celui-ci qui a été abattu sur le terrain, donc avec les salariés qui se retrouvent brusquement et perdre leur emploi dans ces petites villes qui se trouvent donc gravement déstabilisées. Et puis également ce qui se passe dans différents cercles politiques, économiques, et puis dans cette nébuleuse un petit peu complexe, mouvement nouveau, dont on verra bien la pérennité, là-dessus je suis un petit peu réservé, qui est celui des bonnets rouges.
Moi, j'aimerais que vous nous parliez quand même un peu plus précisément de ces bonnets rouges, parce qu'il y a eu des confusions, il y a eu des jugements très radicaux, en disant, voilà, c'est une jacquerie poujadiste, en gros, conservatrice, avec un fond, ce vieux fond autonomiste, nationaliste breton qui est derrière ça. D'ailleurs, vous avez une partie du reportage qui concerne l'Institut de Locarne, où on trouve une assemblée de patrons bretons qui disent « Notre problème, c'est la France ». Et nos reporters ont été traités de jacobins, même de jacobinards. Donc, il y a cet élément-là qui est présent. Quelle part vous lui donnez? Où est-ce que vous situez ça dans votre travail?
Je pense que Locarn est marginal par rapport à ce mouvement des Bonnets Rouges. Locarn, c'est un think tank, un institut qui existe depuis une vingtaine d'années, qui réunit effectivement une grande partie du patronat breton, petit et grand, en dialogue, voire en osmose, diront certains, avec les milieux politiques, notamment durant très longtemps, avec celui qui était l'homme fort de la Bretagne, qui l'est toujours, à savoir l'actuel ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Mais par rapport à ce mouvement des Bonnets Rouges, il est certain que Locarn a essayé de prendre le train et, disons, de pousser sur la pédale d'accélération. Ça ne veut pas dire pour autant que le mouvement des Bonnets Rouges soit réductible à Locarn ou se confonde avec Locarn. Ça serait faire une grosse erreur. En fait, ce qui est très intéressant, aujourd'hui, je crois qu'en Bretagne, tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes spécifiques et qu'il faudra trouver des solutions spécifiques, ce qui ne veut pas dire trouver des solutions pour la Bretagne contre les autres, mais il y a un cocktail particulier et tout le monde évoque le droit à l'expérimentation, le droit à la différenciation. Le problème, c'est que personne ne met le même contenu derrière ces mots. Pour les patrons de Locarn, l'enjeu, alors il y a bien sûr cette formule de Monsieur Glon qui explique que le problème de la Bretagne, c'est la France. Mais ce qui intéresse Monsieur Glon, c'est pas du tout la Bretagne. C'est la dérégulation totale, c'est un modèle de pur libéralisme. Que ça se joue en Bretagne, en Franche-Comté, en Patagonie ou dans les Maramourèches, peu importe. La question, c'est celle de la dérégulation libérale. La Bretagne n'est qu'un prétexte pour ces grands patrons bretons. Ça, il faut en être bien conscient. Après, il y a d'autres dynamiques qui sont en jeu dans le mouvement des Bonnets Rouges. Si l'on regarde, alors les gens qui ont manifesté, qui se sont rassemblés d'abord à Quimper et puis à Carhaix à l'automne, c'est d'abord et avant tout les gens qui ont perdu leur emploi ou qui sont économiquement menacés. On cite Jean-Jacques Monnier, qui est un historien important de la Bretagne contemporaine, qui lui-même a manifesté, bien sûr, et qui a tout à fait le port du Bonnet Rouge, et qui explique que la grande erreur, le grand drame du mouvement syndical, notamment, et d'une partie de la gauche, c'est de ne pas avoir fait bloc pour défiler contre ce qui était en train de se passer, pour défiler avec les salariés. Et là, il aurait été possible de peser pour que, véritablement, ce mouvement des Bonnets Rouges apparaisse comme étant, sans aucun risque de confusion ou de récupération, comme étant un mouvement social posant des questions sociales, ce qu'il est fondamentalement.
Ce qu'il n'est plus.
Alors, ce qu'est aujourd'hui le mouvement des Bonnets Rouges, je crois qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Il y aura, normalement, début mars, des états généraux. Il y a, je crois, d'après les informations que j'ai, il y a quelques dizaines de comités, peut-être une cinquantaine, en étant généreux, qui sont actifs. C'est donc un mouvement qui est toujours là, qui regroupe un certain nombre de personnes. C'est pas négligeable, c'est pas non plus massif. On est dans une sorte d'entre-deux, si on voulait raisonner en termes de chiffres. Un mouvement qui doit définir sa stratégie. Les gens qui sont dans les comités des Bonnets Rouges, je vous rassure, ce ne sont ni des grands patrons, ni des nationalistes forcenés. Non, pas du tout. C'est plutôt des monsieur tout le monde, des madame tout le monde, des chômeurs, des travailleurs, des assistantes sociales ou des enseignants qui se posent des questions sur l'avenir de la région. C'est ça. Après, quelles solutions vont être trouvées? On verra bien. Il y a déjà des points de clivage qui sont très importants. Par exemple, les Bonnets Rouges et notamment le maire de Carhaix, Christian Troadec, appellent à la manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui aura lieu le 22 février.
Eh oui.
Tandis que les patrons de Locarn, qui s'étaient donc rapprochés du mouvement des Bonnets Rouges, eux seront peut-être aussi à Notre-Dame-des-Landes, mais de l'autre côté, pour attaquer la ZAD. On le sait notamment par des gens qui sont présents à Locarn. Donc là, il y a des points de clivage très importants. C'est pourquoi je crois qu'il serait totalement réducteur et mensonger et dangereux de vouloir résumer, dire les Bonnets Rouges, c'est ça ou c'est ça. On verra bien. En tout cas, nous, en tant que journalistes, on n'avait pas trop donné des réponses. On préfère poser des questions.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On verra bien, on verra bien. Merci beaucoup. C'était le Diplo de février. Merci à Serge Halimi, Gérard Prunier, Pierre Souchon et Jean-Arnaud de Reims. Merci aussi à Anne Calais-Chavanel. La stratégie du choc, on a cité ce livre chez Actes Sud, le livre de Naomi Klein, à lire et à avoir sous le coude. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire un tour sur la page Facebook de l'émission Petit Garnement. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais et Michel Thomas. L'émission a été réalisée par Franck Adhérère et Guillaume Giraud, préparé avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. On se retrouve, non pas demain, mais lundi à 15h pour la base si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Ça, c'est une photographie qui a été découverte seulement 30 ans après la fin de la guerre. La photo a été prise par le père de Marc Combier, qui était un photographe très connu, producteur de son métier de carte postale. Et il était photographe pour l'armée, mais il posait aussi des photographies personnellement. Il est le seul à avoir photographié à Fliret, près de Pont-à-Mousson.
Alors, on voit les soldats de dos.
Voilà. Et ils fusillent. Attendez, on voit le gars.
Ça, c'est l'officier qui donne l'ordre.
Et ça, c'est le talus. Le talus, il y a exprès, il y a des petits nuages, parce que c'est du sable ou de la craie, je ne sais pas. Et il y a des gens qui tirent n'importe comment dans le peloton d'exécution. Ils ne tirent pas tous sur... Voilà.
Et je peux avoir votre prénom ?
Moi, mon nom, mon prénom, André. André.
Merci.
C'est moi, vous. Et vous êtes qui ?
Il vient de trouver, demandez-lui. Bonjour à tous et bienvenue à la mairie de Paris où se tient cette exposition gratuite, Fusillés pour l'exemple, les fantômes de la République. Et c'est jusqu'au 7 mars.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites ?
Je regarde les photos de mon ami Patrick.
Non, beaucoup plus précisément, elle vient d'annoncer à ses amis qu'elle était enceinte. Excusez-moi, c'est ça,
c'est ça
qu'elle fait précisément.
Ah oui, devant un monument aux morts.
Ben oui, ça tombe bien parce qu'il est prévu pour le jour de la fête nationale, 14 juillet, tout ça, fête nat.
Ah d'accord. Et c'est lui le père ?
Ben ouais.
Et vous avez fait ces photos de monument aux morts ? Pas du tout, c'est l'homme qui est là-bas qui a fait ces photos.
Mais il est très sympa, vous pouvez lui parler, il est gentil.
Celui qui a une veste kaki ?
C'est celui qui a une petite veste kaki, mais enfin c'est pas sa couleur le kaki d'habitude. Mais il a des beaux yeux bleus, il est très gentil, il a des joues roses aussi.
Bonjour, bonsoir.
Plutôt vous êtes très gentil.
Ah bah je mords pas.
C'est vrai ?
Ouais.
Et vous êtes photographe ?
À mes heures perdues, oui tout à fait, donc j'ai beaucoup d'heures perdues.
Et votre créneau, ce sont les monuments aux morts ?
Non, c'est un chapitre. Non, je travaille beaucoup sur tout ce qui est lié à l'histoire. Je travaille sur le mur de Berlin depuis 25 ans, mais aussi sur les plages de débarquement. Donc c'est vrai que c'est juste une aparté, mais c'est une aparté importante. C'est une manière de regarder ce qu'on ne voit plus.
Vous trouvez qu'on ne voit plus les monuments aux morts ?
Non, d'ailleurs je suis le premier à en avoir subi cette conséquence, parce que c'est ce qui m'a donné l'envie de travailler dessus, parce qu'à un moment donné je me suis dit mais à quoi ressemblent, qu'est-ce que veut dire les monuments aux morts ? Donc j'ai commencé à travailler dessus de manière systématique, en pratiquant un protocole bien établi, à la chambre, frontale, avec la même distance, toujours à la tombée de la nuit, donc l'hiver vers 16h30-17h, l'été vers 22h, pour essayer de faire ressortir, du paysage, ces stèles qui en fait ont toutes quelque chose à dire.
Patrick Tournebeuf, qu'est-ce qui a motivé ce travail ?
Une histoire personnelle en fait. Au départ, tout petit, je me suis aperçu que dans le village de d'Olon, dans la Sarthe, le nom de mon arrière-grand-père qui avait été tué pendant la Première Guerre mondiale ne figurait pas. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi il n'y figurait pas. Et tout simplement, ce nom se trouvait sur la stèle du village d'à côté. C'est juste un problème de cadastre, puisqu'il était dans une ferme. On l'avait collé dans la ferme d'à côté, enfin sur le territoire de la ferme d'à côté. Donc du coup, ça m'a donné un peu l'envie de pouvoir aller plus profondément sur cet oubli malencontreux, mais qui en fait n'en est pas un, puisqu'il est à côté, mais bon, qui ne correspondait pas au territoire que je souhaitais.
Aucun rapport avec les fusillés finalement. Ce sont des monuments aux morts.
Si, en fait c'est une commande qui a été passée expressément pour cette exposition, et tous les 8 stèles que l'on voit présentées dans cette salle sont 8 stèles sur lesquelles ont été réhabilités donc des soldats français fusillés pour l'exemple. On peut prendre celle qui est donc de Santa Reparata di Balagna en Corse, du côté de l'île Rousse. Il a été réhabilité il y a exactement 1 an et 3 mois. Donc c'est tout à fait récent. Son nom a été réintégré sur les noms avec ses camarades de village il y a 1 an et 3 mois, soit pratiquement 96 ans après avoir été fusillé. Et donc tous les monuments qui sont ici sont liés aux fusillés. Mais il est vrai, et vous avez raison de poser la question, En fait, ces monuments aux morts font partie d'un corpus aujourd'hui que j'ai établi, parce que j'en ai à peu près une soixantaine. J'aimerais en avoir une 80, 100, 110, mais le nombre n'a pas trop d'importance, puisqu'en fait, c'est la sérialité après qui prend pas, puisque justement, ce protocole permet par la répétition de prendre conscience de l'ensemble des monuments aux morts. Je cherche pas à tirer l'attention plus sur un ou sur l'autre. Il est vrai qu'on y rentre de fait, mais ce qui est intéressant, c'est le corpus.
Il y en a un qui vous touche plus qu'un autre ?
Bah, celui-ci. Petit écolier qui, le point fermé, montre « Maudite soit la guerre » à Gentioux.
Pardon ? Vous faites un sujet sur l'expo en général ?
Oui, sur les fusillés, pour l'exemple.
D'accord.
Parce que vous avez un rapport ?
Aucun rapport direct, mais je trouve sidérant qu'il ait fallu 100 ans à la France pour commencer à reconnaître la légitimité aux fusillés d'être sur les monuments aux morts, par exemple. C'est-à-dire que, selon moi, on devrait depuis bien longtemps, de façon officielle, reconnaître le carnage que ça a été. J'ai le sentiment que la France devrait reconnaître sa responsabilité, que l'État devrait reconnaître sa responsabilité dans ce qui s'est passé durant cette guerre. On donne des grandes leçons aux autres sur les génocides qu'on reconnaît officiellement. Et nous, 100 ans après la guerre, on en a encore tout juste à reconnaître et à éventuellement accepter que des fusillés, pour l'exemple, soient sur les stèles. C'est juste hallucinant. Je trouve que c'est hallucinant.
Et votre prénom ?
Olivier.
Et vous avez un rapport avec le sujet ?
Je suis photographe de tendance floue comme Patrick Tournebeuf, mais le sujet m'intéresse particulièrement.
Patrick Tournebeuf, si on veut voir votre travail plus en détail, on va sur tendanceflou.net.
Voilà, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
France Inter et le Théâtre de l'Atelier présentent à partir du 11 février Marguerite Duras, Les Trois Âges, mise en scène par Didier Besas. De Savannah Bay à Marguerite et le Président, en passant par le Square, Marguerite Duras, Trois Âges, Trois Visages, Trois Écritures différentes.
Qui êtes-vous ?
Je ne me souviens jamais exactement.
Regardez-moi. Je viens tous les jours vous voir.
Ah, oui ! On joue aux cartes ? On raconte des histoires ?
À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Bleu crée l'événement à Lille.
Daniela Lombroso reçoit M. Pokora et toute la troupe du spectacle musical Robin des Bois.
Demain à 12h30 dans France Bleu Midi, ensemble, en direct, depuis le Furet du Nord.
France Bleu, un réseau du groupe Radio France.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, conséquence de la tempête qui touche tout un quart nord-ouest de la France cet après-midi. À Tours, la statue de Saint-Martin, emblème de la ville, menace de tomber. Elle est juchée sur le dôme de la basilique qui lui est consacrée. Et donc, pour des raisons de sécurité, les deux rues adjacentes à la basilique de Saint-Martin de Tours ont été fermées à la circulation. Les vents ce soir pourraient faire tomber cette statue qui pèse près de 2 tonnes. Le président du directoire de BPCE, François Perrol, a été entendu cet après-midi par un juge d'instruction du pôle financier. L'interrogatoire porte sur les conditions de sa nomination à la tête du groupe bancaire issu du rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires. L'enquête a été lancée en 2010 à son arrivée à la tête de BPCE après avoir passé 2 ans à l'Élysée comme secrétaire général adjoint. À l'époque, la gauche et les syndicats de la banque avaient dénoncé un conflit d'intérêts car François Perrol avait pris part aux négociations sur la création du groupe BPCE. Nice Matin devrait changer de main. Le groupe Persan Média annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec un entrepreneur et élu d'hiver droite de Nice, ainsi qu'un fonds d'investissement privé européen. Selon une source proche du dossier, le groupe Persan Média conserverait tout de même 20%. Le plan de reprise prévoit, lui, la suppression de 128 postes d'ici 2015. Les syndicats, eux, parlent au contraire de 146 départs volontaires. Le groupe Nice Matin emploie actuellement 1 millier de personnes et tire à plus de 180 000 exemplaires par jour. Il fallait s'y attendre, conséquence de la faiblesse de la faible hausse du nombre d'utilisateurs l'an dernier. L'action Twitter a de nouveau chuté aujourd'hui à Wall Street. À l'ouverture de la bourse de New York, elle perdait cet après-midi plus de 20%. Un contrôle de police a dégénéré aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille. 4 policiers ont été légèrement blessés. Le jeune homme fumait un joint quand il a été contrôlé. Il a appelé ses amis et sa famille qui s'en sont pris ensuite aux fonctionnaires. L'automobiliste qui a percuté et tué le conducteur d'un scooter avant de prendre la fuite dimanche soir à Bobigny a été mis en examen aujourd'hui. Mis en examen notamment pour homicide involontaire aggravé par une conduite en état d'ivresse et la consommation de drogue. Il a été écroué. La SNCF lance aujourd'hui une offre spéciale, billets de train plus billets de musée ou billets pour des événements culturels. Ça s'appelle Instant V. Les hôtels devraient suivre dans les mois à venir. L'idée, selon la direction de la SNCF, est que le client puisse construire lui-même son package. Enfin, des archéologues égyptiens viennent de découvrir une momie vieille de 2000 ans. Il s'agit du corps d'une femme. Elle était enterrée avec 180 statuettes funéraires, selon le ministère égyptien des Antiquités. Le grand nombre de statuettes est le signe d'un statut social élevé. La découverte a eu lieu à une centaine de kilomètres au nord du Caire. Autre découverte majeure en Égypte, celle d'une mission égypto-espagnole à Luxor. Cette fois, elle a mis au jour de nouvelles inscriptions et fresques représentant côte à côte Amenhotep III et son fils Amenhotep IV, ce qui prouve qu'ils ont régné ensemble. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Ce soir, à partir de 18h20,
Todos Europeanos.
Alles Europeer.
Tous des Européens.
All Europeans.
Une émission spéciale présentée par Hélène Jouan, Jean-Marie Colombani et Éric Valmire.
Tous des Européens poursuivent son voyage en Europe.
Nouvelle escale ce soir, nous serons à Athènes, en Grèce.
La Grèce qui préside actuellement l'Union Européenne.
Dans ce pays durement touché par la crise, quelles solutions la société imagine-t-elle pour s'en sortir ? Comment vit-on aujourd'hui ?
Quelle perception de l'Europe ? Entretien politique, portrait, rencontre avec les acteurs de la société. C'était grec, c'est ce soir à 18h20 dans Tous les Européens à Athènes.
Et comme d'habitude de la musique live, ce soir Olga Kouklaki sera en direct pour Tous les Européens.
En partenariat avec le Nouvel Observateur, ce soir sur France Inter à partir de 18h20.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillier, on vous retrouve à 17h.
Eh bien tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Des personnages sympathiques, il y en a dans la musique, et oui, même rigolos et rigolards, tel Emmanuel Chabrier, Auvergnat, Bontain, qui disait d'ailleurs « je rythme ma musique avec mes sabots ». Et bien qu'il ait travaillé au ministère de l'Intérieur, au service des copies, il n'a pas perdu une once d'humour, et il a écrit à sa femme, après l'interprétation de sa fameuse « Joyeuse marche », qui est un joyeux bazar, il a dit « la marche est imbécile de drôlerie, les musiciens se tordaient, bien que la répétition ait commencé à 8h30 du matin. C'est vrai que ça ne pousse pas forcément à la bonne humeur, mais là, ça a marché.
Joyeuse marche, dite aussi marche française d'Emmanuel Chabrier, interprétée par l'orchestre de la Suisse romande, qui va de bon cœur sous la baguette de Néeme Järvi. Famille de musiciens, les Järvi. On a eu Christiane Järvi à la tête de l'orchestre national l'autre jour pour les Victoires de la musique. C'était lundi. Et voici encore quelque chose de charmant de Chabrier. C'est la suite pastorale. Et c'était au départ des pièces pour le piano qu'il a transcrites pour l'orchestre, qu'il a orchestré donc. Et une danse villageoise bien enlevée, bien sympathique, comme était le gaillard d'ailleurs né à Ambert. On fabrique la fameuse fourme d'Ambert avec le bleu, ici délicieux. Donc ce gaillard-là, il fréquentait les salons et il amusait tout le monde avec sa bonne bouille, sa silhouette toute ronde. Et il a été néanmoins ami de Claude Monet, d'Edouard Manet, d'Émile Zola, d'Alphonse Daudet. Voilà. On l'aimait parce qu'il était sympathique, souriant et talentueux, tout simplement, bien qu'il ait préféré toujours.